Chapitre 31. Avant l'arrivée de Gabriel, le souper était une formalité et le plus souvent vite expédié. C'est désormais un rendez-vous que chacun attend et apprécie. Peu à peu, la jeune femme a su faire du dernier repas de la journée un moment convivial qu'elle orchestre discrètement. Elle a dorénavant sa place attitrée entre Pierre et Henri. Même en l'absence de Stasio, elle prend soin de dresser son couvert. Une sorte de rituel s'est instauré. Lorsque tout le monde s'est lavé les mains, avec du savon, elle y veille, elle sert ses délicieuses préparations que chacun salue à sa façon. Pierre complimente avec des mots qui se veulent recherchés. C'est ainsi qu'il a qualifié un pâté à la viande de « nouveau monde pour les papilles ». Même si la jeune femme n'est pas certaine d'avoir compris ce qu'il voulait dire, d'autant plus qu'il parlait la bouche pleine, cela lui a fait plaisir. Conrad, quant à lui, grogne de bonheur en fermant les yeux et Henri en redemande jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La présence de Gabriel a incontestablement fait évoluer l'ambiance et personne dans l'équipe ne se risque à évoquer le moment où elle repartira, de peur que cela n'arrive trop vite. La jolie rescapée n'est cependant pas la seule à avoir transformé les rapports au sein de l'équipe. L'attaque contre l'Italien a eu le mérite de resserrer les liens. Le menuisier enseigne de nouvelles prises de défense au clou après ses exercices de calcul et Pierre ose se montrer plus protecteur envers ses compagnons. Ce soir, Vincent se sent un peu étranger à cette belle humeur. La tête débordant encore des arguments de Charles, il peine à savoir où il en est ces derniers temps. Les événements deviennent tellement violents, tellement complexes. Il est en permanence chahuté par des émotions qui le remettent en cause. Le monde n'est pas le seul à changer. Lui aussi. Le moment du coucher approchant, il souhaite bonne nuit à la ronde tout en sachant que la sienne sera sans sommeil. Étendu tout habillé sur son lit, Cavel écoute les bruits de la maison s'estomper les uns après les autres, jusqu'au silence. Incapable de fermer l'œil, il se tourne et se retourne entre ses draps, comme tournent en son esprit les révélations trop lourdes de Charles. L'heure enfin venue, il se lève sur la pointe des pieds pour quitter la pension sans que personne ne s'en aperçoive. Sur la table des plans, il laisse un mot à l'intention de Pierre. « Ne t'inquiète pas, petit frère, tout va bien et je vais revenir. » Dans la nuit fraîche, il relève son col pour se protéger du vent, puis prend le chemin qui monte au sommet de la butte, jusqu'à l'église Saint-Pierre. Charles l'attend là-bas. Chapitre 32. Au plus noir de la nuit, les lumières de Paris sont éteintes et la tour Eiffel se distingue à peine dans l'immensité obscure qui recouvre la capitale. Le Sacré-Cœur inachevé, ceinturé d'échafaudages, ressemble à un monstre endormi que sa gangue ne parviendra pas à contenir lorsqu'il s'éveillera. Sur son parvis, noblement installés sur les blocs de calcaire en attente, tels des sphinx, des chats veillent. En regard d'une telle masse, l'église historique de Montmartre n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le récent calvaire, qui lui a été adjoint, semble bien impuissant à la protéger. Sur leur promontoire de roc, le Christ et ses deux compagnons de crucifixion, figés dans leur supplice, se dressent comme de frêles vigies face à la basilique naissante. Saint-Pierre porte les cicatrices de tous les affronts qui lui auront été infligés. Dernier vestige de l'ancienne abbaye royale qui occupait toute la butte, elle fut pillée et profanée lors de la Révolution, convertie en temple de la raison, puis utilisée comme support pour le télégraphe, occupé par les troupes russes en 1814, et enfin devint magasin et cantonnement avant d'être laissé à l'abandon. Même si des messes y sont à nouveau célébrées de temps en temps, la pluie s'abat par sa toiture éventrée et ses murs fissurés envahis de végétation ne tiennent plus que grâce à des étais placés en contrefort. Sa démolition paraît désormais inéluctable. Escaladant le talus des anciennes fouilles à l'arrière du bâtiment, Vincent se faufile par le petit cimetière qui borde le nord de l'église. Au détour d'un caveau, une silhouette surgit. L'homme, coiffé d'un chapeau droit et vêtu d'un long manteau de cocher en cuir, demande à voix basse. « Mot de passe. » « J'ai rendez-vous avec Charles. » « Le mot de passe. » répète laconiquement l'individu en dégageant une lame du pan de son vêtement. Vincent recule. « Tout doux, l'ami, il m'attend. Il m'a confié ce satané mot de passe, c'est vrai, mais là... » Il se concentre de toutes ses forces. L'homme avance déjà vers lui. Cavell lui souffle in extremis. « 15 août. Le mot de passe est 15 août. » L'homme range aussitôt son arme et lui fait signe de le suivre. Vincent aperçoit plusieurs autres gardes en faction autour de l'édifice. Tous portent la tenue caractéristique des cochers. Surprenant accoutrement en pareilles circonstances. Celui qui l'escorte l'invite à pénétrer dans l'église par le flanc en partie effondré de la sacristie. À l'intérieur, quelques lampes éclairent trois hommes dont les ombres s'étirent sur les murs en piteux état. Ils s'activent à démonter une maçonnerie au fond du chœur. Près d'eux, Vincent reconnaît la silhouette de Charles. Enjambant les débris depuis longtemps tombés du plafond, il avance droit sur lui. « Que font ces hommes, Charles? Ils profanent ce lieu? Est-ce là votre façon de protéger le passé ?»« Pas d'émotion dans l'action, Vincent. Il faut parfois entailler la peau pour sauver le cœur qui bat encore. Nous sommes obligés d'intervenir en urgence parce que des carriers ont déjà commencé à piller les sols. » Il désigne une zone de la nef retournée comme après une charge de cavalerie. « Ils volent les dalles ?» avec une prédilection pour les stèles funéraires, sans se demander si elles marquent l'emplacement d'un corps enseveli ou si elles ont simplement été employées comme matériaux. Il pointe son doigt sur une pierre tombale enserrée dans le sol du chœur. Par prudence, nous allons faire déplacer celle de la fondatrice de l'ancienne abbaye, Adélaïde de Savoie. Ces voleurs ne respecteraient pas même une reine de France. Vincent s'indigne. « Il faut prévenir les autorités !» Les autorités n'ont rien à faire d'une vieille église en ruine et d'une souveraine oubliée. Par contre, on peut compter sur ces mécréants pour revenir se servir. Ils revendront leur butin à des illuminés qui en feront des objets de décoration pour leurs sinistres cabinets occultes. Peu leur importe que l'avis de démolition soit signé ou non. C'est pour cette tombe que vous m'avez demandé de venir ? Non, même si elle le mériterait. Il y a bien plus important encore. Quelque part autour de nous est enterré un coffret sur lequel ces pilleurs ne doivent en aucun cas mettre la main. Vincent contemple la désolation qui l'entoure. La dernière fois qu'il est entré ici, il n'était encore qu'un enfant, accompagné de sa mère pour une messe payée en l'honneur de son père. Ils n'étaient pas nombreux. Charles lui fait signe de s'approcher. Le lieu est sacré depuis l'Antiquité. C'est ici qu'est né le culte autour de Saint-Denis, le saint auquel l'Église fut originellement dédiée, le premier évêque de Paris. Les fouilles menées récemment ont permis d'y situer une vaste nécropole mérovingienne datant certainement du VIe siècle. L'Église est citée en tant que telle dès 1096, voilà près de 800 ans. Peu le savent. Mais c'est dans ce lieu, alors qu'il constituait encore le sanctuaire de l'abbaye royale, que le 15 août de l'an 1534, Ignace de Loyola, François Xavier, Pierre Favre et six de leurs compagnons jetèrent les bases de la Compagnie de Jésus. L'ordre des Jésuites ? Celui-là même. C'est ici qu'en naquit le vœu et qu'en fut accompli l'acte fondateur. Près d'un siècle plus tard, en juillet 1611, des ouvriers, en perçant les soubassements derrière le chevet, mirent au jour une crypte enfouie, creusée dans le gypse brut. Ils découvrirent un autel rudimentaire, orné d'une croix latine gravée dans la masse. Les murs portaient la trace d'inscriptions que la fragilité du matériau n'a pas protégée de l'humidité. Sans que l'on ne puisse rien déchiffrer, le lieu fut aussitôt considéré comme le refuge des premiers chrétiens lorsque Paris était encore Lutèce et devint un lieu de pèlerinage. Invitant Cavell à le suivre, Charles franchit le passage que les ouvriers ont enfin réussi à ouvrir et descend sur le site de l'ancienne crypte. Dans l'un de ces messages écrits durant ses lointains périples, Ignace de Loyola fait mention d'un coffret de la plus haute importance qu'il compte faire parvenir depuis la Terre Sainte à l'un de ses frères. Il demande à celui-ci de le dissimuler sur le lieu de naissance symbolique de leur ordre. Aucune information sur son contenu n'est précisée. Par contre, il préconise un enfouissement dans la crypte cachée. Nous avons conclu que cette petite salle, mise au jour fortuitement bien longtemps après, était déjà connue de lui et de ses compagnons. Nous avons réussi à retrouver trace de la réponse qui lui a été faite quelques mois plus tard, confirmant que sa demande avait bien été exécutée. C'est ainsi que nous savons que, quelque part ici, se cache ce que Loyola a expédié. Vincent évalue le sol de la crypte. Il est composé de larges dalles aux dimensions variables. Certaines, issues de sépultures, portent des inscriptions ciselées. Charles lui pose une main encourageante sur l'épaule. « Nous y voilà, mon ami. C'est là que j'ai besoin de vos talents. » « Avez-vous une idée de la taille du coffret ?»« Aucune. » « Puisque vous ne savez pas non plus ce qu'il contient, pourquoi tant de hâte à l'exhumer ?» La seule identité de son expéditeur nous incite plus que vivement à le placer en sûreté. À l'époque où il fut enseveli, les jésuites pouvaient croire que sa cachette était sûre parce que située dans une enceinte sacrée considérée comme éternelle. Pourtant, aujourd'hui, même le sacré est remis en cause et l'endroit est dangereusement compromis. Vincent examine l'air. Vos hommes peuvent-ils faire des sondages du sol ? Certes, mais cela exige un temps que nous n'avons pas. D'ici quelques heures, le soleil se lèvera et personne ne doit savoir que nous effectuons des recherches. Seule votre expérience peut nous permettre de trouver ce qui se cache ici, avant qu'il ne soit trop tard. Apportez-moi davantage de lumière et reculez. Chapitre 33. Vincent arpente la minuscule crypte depuis plus d'une heure. Une lanterne dans une main, son couteau dans l'autre, il la traverse, la recoupe en tous sens, en marmonnant pour lui-même. Il l'a même parcouru à quatre pattes, en détaillant au plus près chaque pierre du sol. Pour se donner un temps de réflexion, il s'est accroupi au fond, sans cesser d'observer. Il s'est alors demandé comment Bégel et Robert Houdin auraient procédé à sa place. En proie à une soudaine excitation, il a demandé aux hommes de Charles de soulever une dalle et de creuser en dessous. Mais cela n'a rien donné. Depuis, Charles et ses ouvriers sont assis sur le rebord de l'entrée et le regardent en silence. Il va et vient, s'arrête, repart en arrière et se heurte aussi bien à l'autel qu'au mur brut. Loin de moi l'idée de vous affoler, Vincent, commence doucement Addison, mais le jour ne va plus tarder à se lever. Vos cochers nous protègent, n'est-ce pas ? Contre d'éventuelles attaques, certes, mais pas de la curiosité des habitants et de la publicité que cela pourrait nous valoir. Vincent hoche la tête sans se déconcentrer et revient une nouvelle fois sur ses pas. Il résonne à voix haute. Tellement de possibilités dans un si petit espace. Soyons pragmatiques. La pierre sous laquelle est dissimulé le coffret possède forcément des caractéristiques qui permettent de l'identifier à coup sûr. C'était nécessaire pour que les jésuites puissent le retrouver. Charles acquiesce en silence pour ne pas troubler sa réflexion. Cavell continue. Chacune de ces dalles, il y en a 278, peut se différencier selon quatre paramètres. Sa forme, la nature de la roche, sa position sur l'échiquier du dallage et par ce qui est éventuellement gravé dessus. Il tourne sur lui-même et ajoute « Après un examen minutieux, j'ai choisi d'écarter la différenciation par la forme et la roche parce que trop de dalles se ressemblent et que ces critères ne s'avèrent pas assez sélectifs. Reste donc la position et les inscriptions. Vincent se place dans un angle de la crypte et ouvre les bras. Pour définir efficacement une position, il faut pouvoir s'appuyer sur un référentiel indiscutable. Un coin de l'autel, une direction donnée par la croix ou des éléments architecturaux intangibles qui permettent une combinaison de coordonnées stables telles qu'abscisse et ordonnée. Charles commente. Les parois sont irrégulières, l'autel lui-même ne me semble pas d'aplomb. Je ne vois pas vraiment de point de repère fiable. Vincent opine. J'en suis arrivé à la même conclusion. À cet instant, un des cochers pénètre dans la crypte et s'approche de Charles. Il lui murmure quelques mots à l'oreille. Son patron répond brièvement et l'homme ressort en toute hâte. Vincent l'a remarqué. Un problème ? Rien de plus que ce que nous savons déjà. Le temps presse. Ne vous déconcentrez pas. Vous disiez que la position des dalles n'était sans doute pas la meilleure piste. Exact. Restent les gravures. Certainement notre hypothèse la plus prometteuse. Elles sont variées, réparties un peu partout. Mais cela représente tout de même plus de 100 possibilités. Vincent inspire profondément. Les relever toutes et fouiller dessous constitue un travail de titan que le délai nous interdit. Faisant quelques pas, il se penche sur l'une des pierres. La plupart de celles dont les inscriptions sont déchiffrables proviennent de sépultures datées entre la fin du XIVe et le début du XVIe siècle, tout à fait cohérentes avec la date présumée de l'enfouissement. En effet, les plus anciennes ne sont plus lisibles. L'usure, l'imprécision des caractères gravés. Pour gagner du temps, j'ai choisi de les négliger pour me concentrer sur le probable. Mais le probable n'est pas le possible. Maintenant que j'ai achevé d'analyser celles que je parviens à lire et qu'aucune ne semble receler de signes codés ou de références, je me dis que j'ai peut-être loupé quelque chose. Réfléchissant toujours, il désigne la pierre de marbre blanc qu'il a fait relever plus tôt. Celle-là avait attiré mon attention parce que le nom du défunt n'est plus lisible, alors que, paradoxalement, la mention au-dessous l'est, ainsi que la date. Pourtant, il n'y avait rien dessous. À mon grand regret. Il poursuit son examen approfondi des gravures. Je suppose que l'indice qui marque le bon emplacement sera relativement évident, pour peu que l'on sache ce que l'on cherche. Qu'est-ce qui vous permet de le croire ? La pièce elle-même était secrète. Avant d'atteindre la dalle, il fallait découvrir la crypte. Il n'y avait donc pas lieu de compliquer sa dissimulation autant que si elle s'était trouvée dans un lieu public. Cavell s'arrête soudain sur une pierre très usée parmi les plus vieilles. La gravure ne comporte qu'un chiffre romain. Il s'agenouille et l'effleure de la pointe de son index. Cette inscription semble bien plus ancienne que la plupart des autres, au point d'en être hors course. Mais une idée vient de traverser l'esprit de Vincent. Les jésuites auraient très bien pu faire appel à quelqu'un comme Eustasio, capable de vieillir les matériaux au point de tromper n'importe quel observateur. Il passe le doigt le long des caractères en creux pour s'assurer de ce qui est gravé. S-J-M-D-X-X-X-I-V. Il se redresse. Si on considère les 7 dernières lettres, cela pourrait correspondre à une date. Et les 2 premières ? Un code. SJ, peut-être Societas Jesu, l'appellation initiale de la Compagnie de Jésus. Pourquoi pas ? Suivi du millésime 1534. C'est bien cette année-là que Loyola et ses compagnons ont décidé de la création de l'ordre. Charles confirme. Le 15 août. À l'extérieur, le son d'une puissante corne retentit. Charles et ses hommes s'agitent. « Pas de panique, » les rassure Vincent. « C'est le signal de la journée qui démarre sur le chantier du Sacré-Cœur. » Il désigne la pierre auprès de laquelle il est agenouillé. « S'il vous plaît, messieurs, aidez-moi à soulever cette dalle-ci. Si mes déductions sont justes, nous n'en aurons plus d'autres à manipuler. » Armés d'un pied de biche et non sans mal, les 3 hommes décollent la pierre et sondent la terre sèche à l'aide de fines tiges métalliques. Retroussant ses manches, Charles les aide à dégager le remblai au fur et à mesure. Leur chantier est bien plus modeste que celui qui se déroule à seulement quelques dizaines de mètres de là, mais il produit vite des résultats. « Je bute sur quelque chose », annonce l'un des ouvriers en retirant sa sonde. Tous s'activent à déblayer la terre poussiéreuse. Vincent finit par dégager une forme rectangulaire de la taille d'une boîte à courrier, enveloppée de plusieurs couches d'un épais tissu. Asséchée par le temps, les premières partent en lambeaux, mais dessous, la toile est intacte. Il en sort bientôt un coffret de bois sombre. Il le manipule avec un soin extrême et souffle dessus pour chasser les dernières fibres restées accrochées. Le couvercle est marqué de trois lettres, IHS, surmonté d'un trait bombé. Dessous, un lys stylisé. Un soleil encercle le tout. Le premier symbole de la Compagnie de Jésus. Libéré de son enveloppe, même après des siècles, le bois dégage un parfum que Vincent reconnaît immédiatement. « Du bois de Cade », affirme-t-il en le humant. Charles l'observe. Vincent relève le visage et croise son regard. Avec naturel, il lui tend leur découverte. « Tenez. Vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il contient ? Ce n'est pas ma mission. Il faut réussir de petites choses avant d'en tenter de grandes. » Charles sourit. Par la toiture éventrée, les premières lueurs de l'aube illuminent la nef.